Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau carnet de région, votre magazine d'actualité régionale proposé par les radios associatives non commerciales de l'ex-région Languedoc-Roussillon, nouvellement Occitanie. Au sommaire de ce carnet de région, les 4e assises nationales de la médiation numérique qui se tiennent à Mende la semaine prochaine. Nous reviendrons dessus avec Frédéric Dumortier, le directeur de la Maison de l'Emploi et de la Cohésion sociale de la Lozère qui co-organise la manifestation. Coup de projecteur dans ce carnet de région sur le 24e Miam, le salon de la gastronomie et des produits du terroir qui se tient en ce moment au parc des expositions d'Alès. Nous irons saliver sur ce sujet avec Yves Defago de Radio Grille Ouverte. Nous resterons ensuite dans le Gard, plus précisément au Vigan, pour aller à la rencontre d'exilés. Un très beau reportage de Pierre Isner-Dupuis de Radio Escapade. Enfin, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, focus sur Ernocop, une coopérative pour une électricité 100% renouvelable. Un sujet de Guylaine Dubois de Radio FM+.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Les 4e assises nationales de la médiation numérique arrivent mercredi, jeudi et vendredi prochain à l'espace événement Georges Fraîche de Mende, un événement organisé par la Maison de l'Emploi et de la Cohésion sociale de la Lozère et le Conseil départemental avec le soutien de l'Agence nationale du numérique et des pôles interrégionaux de la médiation numérique. Elle va rassembler des conférenciers et intervenants du monde entier autour de la thématique « Le numérique au service de l'équilibre et du développement des territoires ». Alors si au départ la médiation numérique tournait autour de la question de l'accompagnement des personnes sur les usages du numérique, de l'accueil des personnes pour éviter les fractures numériques, d'où la création partout en France des maisons d'accueil au public, avec l'émergence de nouvelles façons de travailler et de nouveaux outils, la médiation numérique a évolué, se tourne vers la question du numérique dans ses différents usages. Écoutez à ce sujet Frédéric Dumortier, le directeur de la Maison de l'Emploi et de la Cohésion sociale de la Lozère.
Il suffit pas de mettre en place un site internet pour que les gens aient accès à ces droits-là et à cette pratique. Il faut pouvoir les accompagner. Aujourd'hui, on a encore des personnes pour lesquelles il y a besoin d'accompagner pour créer une adresse mail. Ça ne tombe pas du ciel et c'est vrai pour tous les publics. Nos digital natifs, là, nos jeunes qui sont nés dans le numérique, ils ont quand même besoin de cet accompagnement-là. On a toujours l'impression que les jeunes, ils sont nés dedans et ils ont plus besoin d'accompagnement. Alors certes, ils ont des pratiques sur certains aspects, comme notamment les réseaux sociaux, où on n'a pas grand-chose à leur apprendre. Si ce n'est quand même de s'en méfier, si ce n'est d'être vigilant par rapport à cette question-là, mais aussi de s'en servir positivement. C'est-à-dire comment on s'en sert au-delà d'une relation entre copains, c'est comment un employeur va se servir de notre identité numérique et comment on a conscience de ça. Et donc c'est tout cet accompagnement-là. C'est pour ce que l'illustrer tout particulièrement ce qu'on fait en Lozère, mais c'est aussi la question des médiathèques, l'accès à la culture à travers le numérique. C'est aussi à travers des Fab Labs, donc là comment on travaille sur de l'impression 3D, sur de la découpe numérique et comment on réapprend et comment on se réapproprie aussi des nouveaux usages, des usages quasi mini-industriels, mais que le numérique nous permet d'aborder avec des outils relativement simples à partir du moment, effectivement, où on n'est pas seul et où on est accompagné. S'il devait y avoir une conclusion sur la question de la médiation numérique, c'est de montrer que le numérique, c'est l'occasion de réinterroger la question de la coopération, de réinterroger la question de la collaboration à travers des outils qui ne sont pas, du coup, virtuels, mais pour lesquels on travaille réellement avec des personnes à travers des nouveaux outils qui nous permettent d'autres rencontres, qui nous permettent d'aller plus loin dans certains projets et qui nous permettent de faire des choses différentes, de le faire peut-être mieux et de le faire avec d'autres personnes. Ces assises-là auront vraiment cette volonté d'ouverture. On va pouvoir accueillir une délégation d'outre-mer, on accueille une conseillère régionale de la Guadeloupe, on accueille des Irlandais, des Finlandais dans le cadre d'un programme européen et donc ils vont pouvoir nous montrer effectivement ce qui se fait ailleurs. On va accueillir l'Agence nationale wallonne avec nos voisins belges qui vont aussi nous expliquer comment on peut travailler et comment c'est intéressant aussi de s'inspirer des pratiques qui sont autres que les pratiques nationales.
Et c'est Axelle Lemaire, la secrétaire d'État en charge du numérique et de l'innovation, qui viendra clôturer vendredi ses assises, 3 jours sous forme de conférences, colloques, d'ateliers, ainsi que d'une journée tout public pour découvrir les innovations numériques. C'était un sujet de 48 FM. Du 18 au 21 novembre se tient au Parc des Expositions d'Alès le 24e MIAM, le Salon de la Gastronomie et des Produits du Terroir. Cet événement, organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alès, accueille pas moins de 130 exposants, producteurs, éleveurs, artisans et commerçants venus de toute la France et espère recevoir cette année la venue de 20 000 personnes. Pour les organisateurs, la tenue de ce Salon de la Gastronomie peu de temps avant les fêtes de fin d'année invite le public à commencer à faire ses achats de réveillon et ce pour une dépense moyenne d'environ 70 euros. Chaque année, une région française ou un pays étranger reconnu pour la qualité de leur gastronomie sont invités pour mettre en avant leurs spécialités culinaires et leur folklore. Et cette année, c'est la Bretagne et les produits de la mer qui seront les invités d'honneur de ce 24e MIAM. Des produits et une région demandés par le public, comme nous l'explique Hélène Génoté, la responsable communication de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alès.
C'est une première et on nous l'a réclamée, cette Bretagne. Donc nous sommes allés la chercher et nous avons pour cette 24e édition une dizaine de producteurs, d'exposants, d'artisans bretons qui viennent à Alès pour nous présenter leurs produits. C'est la première fois qu'on met en avant une région qui est à la fois une région avec des produits de la terre mais de la mer, avec une jolie place pour les crustacés et les fruits de mer.
Quelle sera justement cette place de la Bretagne au sein du MIAM ?
Elle aura un pôle dédié, très très bien décoré. Et là, on retrouvera du sel de Guérande, on retrouvera des stands avec des crêpes, des galettes bretonnes, du cidre, du jus de pomme, des huîtres bretonnes. Nous aurons de l'andouillette. Voilà, tous les produits qui font que la Bretagne est appréciée aussi par sa cuisine. À chaque fois, donc, il y a un restaurant de l'invité d'honneur. Donc là, c'est les Cahiers de la Presqu'île, un restaurant où on mangera des plateaux de fruits de mer, des huîtres, des poissons et des moules frites.
Parmi ce programme du 24e MIAM, j'ai retenu un désigneur culinaire. J'aimerais que vous nous parliez de cette curiosité.
Oui, donc il y a une large place au design culinaire, puisque quand on aime cuisiner, on aime aussi que l'assiette soit jolie. Donc la mise en valeur des produits dans une assiette, c'est réfléchir à la juxtaposition des couleurs, des différents ingrédients qu'on va mettre dans son assiette, dans son plat, quelle texture, quel dessin peut-être faire. Donc là, c'est du design culinaire. Cette personne qui vient faire une conférence sur le design culinaire va travailler avec un cuisinier en cuisine et va apprendre aux personnes à marier les couleurs, les textures, et à rendre jolie une assiette. Voilà, c'est toute la partie esthétique pour que non seulement ce soit bon, mais que ce soit beau. Et puis, bien sûr aussi, le design culinaire avec Okni Factory, qui est une entreprise alésienne composée de 3 jeunes de moins de 30 ans qui sont spécialistes du design culinaire aussi et de l'événementiel culinaire et qui, là, vont créer au premier étage du salon tout un espace événementiel où on pourra faire des expériences gastronomiques à partager par groupe de 10. On pourra soulever des cloches, humer des bonnes odeurs, se retrouver à la fois par l'ouïe, l'odorat et le goût dans la forêt de Brocéliande ou sur la côte de Granit et faire des expériences intéressantes. Ça s'appelle le Braise Tour.
Et outre les producteurs et artisans bretons, le MIAM accueillera également Cornemuse et Bombarde pour de traditionnelles fest-noz animées par le club celtique du Gard. Reportage et dégustation sur place effectués par Yves de Fagot de Radio Grille Ouverte.
Carnet de région.
Héros.
Aude,
Gare,
Héros,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère, Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Cette semaine, Radio Escapade nous propose une rencontre avec Rochane et Omar, deux exilés accueillis au Vigan après être passés par Calais. L'accueil se fait pour 10 personnes dans des appartements mis à disposition par la mairie de ce coin et des Cévennes gardoises dans le cadre d'un centre d'accueil et d'orientation.
Chaque jeudi après-midi au restaurant Le Galoupio, les bénévoles qui se sont constitués en collectif pour accueillir, soutenir, rencontrer les exilés proposent un moment de convivialité. L'occasion d'échanger musique, jeux, thé et gâteaux.
Christine, je peux te demander ce qui se passe ici le jeudi après-midi et donc en ce moment même où l'on parle?
Aussi bien une rencontre entre les bénévoles et les réfugiés. Et ils discutent parfois, ils font de la musique ensemble, ou ils discutent, mais aussi ils parlent de leurs problèmes assez librement, quoi. Et donc on essaye de les orienter le mieux possible. C'est aussi un moment de repos, d'être au Vigan, de reprendre des forces, parce que je pense quand même qu'Alais était pour beaucoup très 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 dur, quoi. Les derniers qui sont arrivés, il y en a beaucoup qui ont de gros problèmes de santé. Donc c'était pas possible d'être bien soigné à Calais, quoi. Donc ça, je pense que c'est important quand même qu'ils reprennent des forces, quoi, ici, avec nous.
Comment tu t'appelles?
Sapir Rochane.
Sapir Rochane. Et tu viens de quel pays?
Afghanistan.
D'Afghanistan, et ça fait donc 7 mois que tu es arrivé ici au Vigan, c'est ça?
Ouais, 7 mois, arrivé au Vigan.
Ouais. Comment ça se passe ici au Vigan? Est-ce que tu es content d'être ici?
واقعاً خوشحالم خصوصاً از مردمشون مردم ویگان خیلی خوبن فقط یه مشکل کوچولو داریم که کار نیست اینجا.
Alors il est très heureux d'être ici, il trouve que les gens sont très sympas, mais le problème c'est qu'il y a pas de travail.
Parce que tu aimerais rester ici au Vigan si jamais tu avais du travail?
اگه کار گیر بیارم آره.
S'il y a du travail, aucun problème, aucun problème.
اگه کار باشه آره، اگه نباشه میرم.
C'est vraiment la question du travail. Travailler sur place, c'est terrible de ne pas pouvoir travailler pour lui.
Tu es arrivé ici au Vigan il y a donc 7 mois en demandant le statut de réfugié. Aujourd'hui, tu as ce statut. Est-ce que ça a été difficile toute cette période jusqu'à avoir le statut de réfugié?
واقعاً سخت بود ولی خوب مردم اینجا خیلی خوب بودن از هر لحاظ همکاری میکردن به من کمک میکردن خانم اودیل کریستین مارک فیلیپ کلا مردم خیلی خوب بودن رفتارشون با ما.
C'était une période très très dure, il n'arrivait pas à dormir, très difficile, mais les gens ici l'ont très bien accueilli, il était beaucoup aidé.
Toi, tu avais envie de rester en France ou tu voulais aller en Grande-Bretagne?
نه من اصلا دوست نداشتم برم انگلیس ولی خب مجبور بودم چون خونه نداشتم جا نداشتم مجبور شدم رفتم کاله چون کاله یه سرفنه یه خونه بود که ما حداقل بتونیم بخوابیم اونجا.
Ouais, non, au départ, il ne voulait pas y aller. Il a été à Calais parce qu'à Paris, on lui a dit qu'il pouvait trouver à dormir là-bas. Donc, comme il ne pouvait pas dormir à Paris, il a été à Calais pour se reposer.
Rochane aimerait faire venir sa femme et ses filles en France. Omar, un Nigérien de 32 ans, partage la même préoccupation. Depuis fin 2014, il a suivi la route de la Libye, de l'Italie, puis Paris et Calais avant de prendre le bus pour le Vigan il y a 5 semaines.
On nous a proposé de venir à Vigan, donc on a pensé, et du coup, il faut aller, mais on ne sait pas où la destination.
Devant le risque d'être envoyé en Italie, en fait, c'est ça?
En Italie,
c'est
ça. Ou bien en Afrique, ouais. Moi, du coup, je parle français. Pour l'avenir de mes enfants, c'est ça qui m'a poussé à ne pas rester en Italie. C'est ça seulement, parce que apprendre la langue italienne, pour moi, c'est pas que c'est pas bien, mais pour l'avenir de mes enfants, je trouve que je préfère.
Tu aimerais faire venir ta femme et tes filles ici, j'imagine,
oui,
bien
oui.
sûr.
Tout de suite, même si.
Quel âge elles ont, tes filles?
Ma fille a 6 ans, la petite a 1 an et demi, elle doit avoir 2 ans.
Ça veut dire que depuis 2 ans, tu ne les as pas vus?
Oui, 1 an et demi, je n'ai pas vu.
Ouais, depuis 1 an et demi. Oui,
ouais, j'ai pas vu.
Omar craint d'être renvoyé en Italie. Entré dans l'Union européenne par ce pays, il y a été enregistré et y a laissé ses empreintes digitales. Le règlement dit Dublin 3 prévoit que les exilés doivent faire leur demande d'asile dans le pays d'entrée en Union européenne s'ils y ont été enregistrés. Les autres États européens pouvant les expulser vers ce pays d'entrée. Alors si le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé que la France n'expulserait pas les personnes accueillies en centre d'accueil et d'orientation, Christine du collectif autour du CAO Viganais préfère rester vigilante.
C'est des gens qui sont venus dans un autre pays d'Europe, c'est-à-dire dans l'espace Schengen, souvent la Grèce ou bien l'Italie. Normalement, il faudrait qu'ils soient renvoyés là-bas, comme ils viennent de Calais, qu'ils ont accepté d'aller dans un CAO. On espère que, quand même, à la longue, ils pourront demander leur asile.
Dans un article du Monde paru le 8 novembre et intitulé « La France se prépare à expulser plus de migrants », on apprend que plutôt que protéger, le gouvernement s'apprête à expulser dans le cadre de la procédure Dublin. Si les personnes actuellement en centre d'accueil et d'orientation ne sont pas inquiétées, elles pourraient être transférées vers d'autres structures d'accueil permettant l'expulsion. C'est ce que craignent en particulier les associations de défense des droits des étrangers.
Je passe mon tour.
Ah, on aime bien ça.
Et voilà pour ce sujet. Merci à Odile, bénévole du collectif autour du CAO Viganais, pour la traduction des propos de Roshan du Farsi au français. C'était un reportage de Pierre Isnard-Dupuis de Radio Escapade.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Enfin, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, Guylaine Dubois a rencontré Jean Cossu pour Ernocop, une coopérative pour une électricité 100% renouvelable, un sujet de Radio FM+.
Enercop, Jean Cossu. Qu'est-ce qu'Enercop ?
Alors, Enercop, c'est une coopérative de production d'électricité avec deux spécificités très particulières. C'est une coopérative qui a été créée en 2005, au moment de la libération du marché de l'électricité en France. Il y a tout un groupe d'institutions, on va dire, du milieu alternatif, écologique, associatif, qui ont saisi l'opportunité pour créer un fournisseur alternatif. Alors, il est alternatif en deux sens. Il fournit de l'électricité 100% renouvelable. Et deuxième alternative, structure coopérative, en particulier coopérative d'intérêt collectif, pour s'affranchir des groupes capitalistes qui étaient dans l'énergie à ce moment-là et qui sont toujours d'ailleurs.
Enercop est-il installé à Montpellier ou encore ailleurs ?
Alors, à l'origine, il y avait une coopérative nationale. Et au fur et à mesure du développement de la coopérative nationale, comme l'objectif, c'était quand même de se rapprocher à la fois des producteurs et des consommateurs, cette structure a décidé de créer des coopératives locales. Donc aujourd'hui, il y a 10 coopératives locales. Et la coopérative Enercop Languedoc-Roussillon a été créée en avril 2012, donc elle a un peu plus de 4 ans maintenant.
Enercop, ça représente combien de personnes ?
Alors, à Montpellier, il y a 12 salariés. En France, il y a donc 120 salariés.
Comment ça se passe, une énergie renouvelable ?
Alors, les énergies renouvelables, c'est relativement simple. Il y en a en gros 4 catégories. Il y a l'hydraulique, le photovoltaïque, l'éolien et la biomasse. Donc chez Enercop, on a une spécificité, une originalité et pratiquement une exclusivité, c'est d'acheter notre électricité à des petits producteurs qui sont identifiés, c'est-à-dire qu'il y a 110 petits producteurs en France. Sur Internet, vous avez tous leurs noms, vous savez tous ce qu'ils produisent, c'est-à-dire s'ils produisent de l'hydraulique, de l'éolien, etc., la puissance qu'ils produisent et là, en quel lieu ils produisent. Donc, on est à peu près les seuls à avoir une traçabilité complète sur les producteurs d'énergie renouvelable en France.
Les seuls en France, dans ce réseau-là, Enercop ?
Non. En France, il y a 9 fournisseurs d'électricité. Donc, il y en a certains qui vendent de l'électricité renouvelable. Mais la spécificité d'Enercop, c'est les seuls à acheter sa production auprès de petits producteurs, qui sont identifiés, traçables, et on peut très bien les connaître sur Internet. Il y a toute leur adresse, etc.
Quelle est l'énergie la plus représentée dans le réseau Enercop ?
Alors aujourd'hui, c'est 80% de l'énergie hydraulique. Quand on dit de l'électricité hydraulique, ce n'est pas des grands barrages. Hein. C'est souvent des petits barrages qui appartiennent à des particuliers, soit à des petites sociétés, mais en général, c'est plutôt des petits particuliers qu'on débarrage. Parce qu'il faut bien savoir qu'au début du siècle, enfin du XXe siècle, il y avait des petits barrages partout au fil de l'eau, sur toute la France, donc qui étaient plus ou moins développés. Donc il y a des gens qui les ont développés, ces barrages, et qui ont vendu pendant des années à EDF ou à d'autres fournisseurs. Donc Enercop a contacté ces petits producteurs, et maintenant c'est à 80%, donc ça doit faire plus de 80 producteurs d'hydraulique en France.
Combien y a-t-il de consommateurs de cette électricité en provenance d'Enercop ?
Alors, les derniers chiffres là, que j'ai là, c'est 40 000 consommateurs. En Languedoc-Roussillon, je crois que c'est 2500 compteurs en Languedoc-Roussillon. Donc, sur 2500 compteurs, il y a 282 professionnels et 30 collectivités. Donc, les collectivités, il y a la région, il y a certaines municipalités. Voilà, en gros, c'est...
Et quelle est votre ambition ?
Alors l'ambition au niveau national, je crois que c'est entre 150 et 160 000 clients. Donc pour ça, il faut déjà avoir de quoi fournir l'électricité. Donc c'est pour ça que l'ambition, c'est aussi essentiellement de développer les énergies renouvelables. Et comme je vous ai dit, dans ces SIC, donc ces 10 coopératives d'intérêt collectif régional, on essaie de réinvestir tous les bénéfices dans le développement des énergies renouvelables et particulièrement les énergies renouvelables citoyennes. C'est-à-dire qu'on encourage fortement, surtout en Languedoc-Roussillon, à développer des projets citoyens, c'est-à-dire à inciter les citoyens à se regrouper pour produire de l'électricité. Et NERCOP Languedoc-Roussillon fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour aider ces citoyens à mettre en place leurs projets.
Merci Jean Cossu pour NERCOP.
Voilà, et c'est tout pour ce carnet de région. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.